Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
terroristes, éliminant au moins 100 terroristes. C'est ce qu'a déclaré le dimanche 16 octobre le major général Oleg Yegorov, chef adjoint du centre du ministère russe de la Défense pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Il a annoncé que les affrontements font rage entre les forces armées dans les deux régions d'Afrin et d'Azaz, dans les régions du nord-ouest de la Syrie, qui sont sous le contrôle de la Turquie. Afin de faire face aux groupes terroristes, l'armée de l'air russe a bombardé une base d'entraînement des terroristes située à 1 kilomètre au nord-est de la ville d'Oratma et de leur centre de commandement. A-t-il dit, ajoutant que des entrepôts d'armes, des munitions, le quartier général du camp et 15 véhicules des terroristes qui étaient équipés de mitrailleuses lourdes avaient été détruits dans des frappes des forces aérospatiales russes. Le groupe terroriste Tahrir al-Sham a pris le contrôle de la ville d'Afrin après la fin du délai de 6 heures. Le 3e corps de l'armée nationale syrienne a quitté Afrin et au même moment, des convois militaires de Tahrir al-Sham sont arrivés au centre d'Afrin. La livraison al-Hamz. La division Al-Hamza, en collaboration avec la division Suleiman Shah, qui était soutenue par HTC, le groupe Tahrir al-Sham, dans la lutte contre le 3e corps, a réussi à prendre le contrôle de plusieurs points de contrôle et du passage de Amaran, dans la campagne de Jarablus, située dans le soi-disant bouclier de l'Euphrate, à l'est du gouvernorat d'Alep. Le HTC a avancé rapidement dans les banlieues nord et sud d'Afrin et atteint le poste frontière d'Al-Hammam dans le nord-ouest d'Afrin afin de surplomber le terminal frontalier le plus important entre Afrin et la Turquie. Tahrir al-Sham a pris le contrôle du poste frontière d'Atma dans le nord syrien avant de s'emparer de toutes les frontières communes entre la Syrie et la province de Kilis en Turquie. Dans le même temps, ses membres ont attaqué les zones autour de la ville d'Al-Bab, capturant à nouveau les zones qu'ils avaient perdues les jours précédents. L'Algérie et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, se sont déclarées dimanche à Alger pleinement confiantes quant aux conséquences qui découleront de la dernière décision prise par l'OPEP et ses alliés de réduire la production du brut sur le marché international, a indiqué le ministère algérien de l'Énergie et des Mines dans un communiqué. Le secrétaire général de l'OPEP, Aïssam Al-Raïs, en visite en Algérie, a discuté avec le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de la situation sur le marché pétrolier international et de ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Face aux incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier international depuis plusieurs semaines, messieurs Arkab et Al-Raïs se sont dit pleinement confiants quant aux retombées positives de l'accord du 5 octobre 2022 adopté à Vienne, qui vise à réduire la production totale de 2 millions de barils par jour à compter du 1er novembre 2022, a précisé le ministère. Par ailleurs, les deux hommes ont évoqué les défis majeurs auxquels l'industrie pétrolière mondiale fait face, ainsi que les moyens de les surmonter par un renforcement de la coordination et du rôle stabilisateur du marché pétrolier que joue l'OPEP et ses alliés rassemblés sous le nom d'OPEP+. Les autorités somaliennes vont fermer les entreprises, les magasins et autres sociétés qui ne respectent pas l'ordre du gouvernement fédéral de ne pas payer d'impôts ou de faire autre versement aux structures mises en place par le groupe terroriste Al-Shabaab. C'est ce qu'a déclaré le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie. Nous allons annuler les licences des sociétés convaincues de liens financiers avec Al-Shabaab, a déclaré le ministre cité par le site d'actualité Somali Guardian. Nous avons par ailleurs l'intention de confisquer les entreprises travaillant pour le compte des terroristes. Le ministre a indiqué que les autorités avaient identifié 4 sociétés d'import liées aux structures d'Al-Shabaab. Les terroristes pouvaient ainsi percevoir les droits de douane dans le port de Mogadiscio pour financer leurs activités. Le groupe Al-Shabaab a été formé en Somalie en 2004. Ces terroristes organisent régulièrement des attaques depuis 2008. Le groupe contrôlait un large territoire en 2010, mais a été repoussé à l'été 2011 hors de Mogadiscio. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Belgorod vengé à Altanf. Qu'est-ce qui empêcherait le commandant en chef des forces russes en Syrie d'agir de la même manière qu'agissent en ce moment les Atlantistes à Belgorod? Selon une toute dernière information, les habitants continuent à signaler des explosions, lesquelles supposent que les Américains, trop remontés contre le tournant asymétrique que prennent à la faveur des drones et des missiles tactiques la guerre en Ukraine, sont là en phase de rendre l'appareil et de pilonner copieusement le territoire russe. Cet après-midi, le territoire de Belgorod a subi l'un des bombardements les plus violents en provenance d'Ukraine. Nous parlons des lancements de nombreux missiles dont le type et la nature n'ont pas encore été clarifiés. Une partie des missiles ont été neutralisés en les interceptant avec des systèmes de défense aérienne. L'un a détruit et endommagé des infrastructures urbaines, laissant également au moins 2 victimes. Plusieurs munitions ont d'abord été tirées sur le territoire de Belgorod, après quoi des bombardements massifs ont commencé. À l'heure actuelle, les résidents locaux signalent au moins 20 explosions. Cependant, nous parlons également du travail des équipements de défense aérienne. Les habitants de Belgorod enregistrent également de grands cratères d'explosions et en outre, un certain nombre de sources signalent des explosions en direction de l'aéroport de Belgorod. Le nombre exact de cibles abattues n'est pas encore connu. Cependant, selon les citoyens, au moins 10 antimissiles ont atteint avec succès des cibles. En effet, entre d'une part Belgorod, que l'axe US-OTAN frappe à la fois à coups de armes AGTMS et de HIMARS, et ce, sans façon, ce qui fait de son acte une totale fuite en avant et le territoire syrien de l'autre, il y a en ce moment un point commun, l'activité de la DSA, et sur ce point-là, le camp d'en face a tout à envier. Quelques 10 missiles sol-air AGTMS interceptés sur un total de 20.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que l'émeute et la destruction de biens publics ne seront tolérées nulle part dans le monde. Et l'Iran ne fait pas exception à cette règle. Lundi 17 octobre 2022, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a sanctionné 11 individus et 4 institutions iraniennes, dont la police des mœurs, la police iranienne, et un certain nombre de ses responsables sous prétexte de problèmes de droits de l'homme. Plus tôt, Amir Abdullahian avait déclaré lors d'un appel téléphonique avec Joseph Borrell, « La République islamique d'Iran bénéficie d'un fort soutien populaire et d'une démocratie efficace. L'Iran n'est pas le pays des révolutions de velours ou des coups d'État colorés. La République islamique d'Iran est le point d'ancrage de la stabilité et de la sécurité de toute la région. » Le chef de la diplomatie iranienne a ajouté, « Bien sûr, nous envisageons un cadre plus large de coopération avec l'Union européenne et la République islamique d'Iran est déterminée à le faire. Par conséquent, nous recommandons aux Européens d'examiner la question avec une approche réaliste. »
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, nous aurons des invités, des experts des questions internationales qui vont développer la question du Mali. Justement, le Mali, qui avait été donc affaibli économiquement et militairement par la France pendant plus de 8 ans, et après l'expulsion de ces derniers, le Mali a pris un certain nombre de mesures pour devancer donc et progresser dans différents domaines, dont industriels et bien sûr sécuritaires. Parmi ces mesures, on peut citer la synchronisation de la police et l'armée. ce qui a rendu en effet très en colère l'Occident, surtout l'axe US-L'OTAN, car ces mesures permettent donc justement au Mali donc de progresser et particulièrement de faire régner la sécurité et la stabilité dans ce pays. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales et professeur à l'université depuis Vaucluse. M. Bernard Cornu, bonjour.
Oui, bonjour. Je ne suis plus professeur à l'université, même si j'ai fait quelques conférences. Je suis à Paris ces jours-ci.
D'accord. Bonjour. En tout cas, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour surtout à M. Cornu, qui me rappelait lors d'une conversation de la dernière émission qu'il était déjà mécontent en Libye en 1996. C'est donc un plaisir de débattre avec lui.
D'accord. Donc, un débat prometteur, donc, M. Luc Michel. Et justement, ma première question va s'adresser à vous. Alors, le gouvernement malien a pris un certain nombre de mesures pour donc en finir avec l'influence étrangère et particulièrement celle de la France et l'axe US, l'OTAN, bien sûr. Et parmi ces mesures, on peut citer bien sûr la synchronisation de la police et l'armée. Pourquoi le gouvernement malien a pris de telles décisions?
Il y a trois remarques à faire. Tout d'abord, les adversaires de la militarisation de la police malienne, ils sont mal pris de critiquer cette mesure puisque la militarisation des forces de police depuis 20 ans, c'est une mesure qui est venue des États-Unis et qui concerne maintenant toutes les forces de police occidentales. En particulier, il y a le déploiement de techniques militaires de combat de rue et il y a le déploiement d'armes de guerre auprès des forces de police. La seconde chose qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, le Mali n'en a pas encore fini avec les forces compradores qui sont liées à l'ancien occupant occidental, en particulier à la France et aux États-Unis. La troisième chose qu'il faut dire, c'est que le Mali, depuis qu'il a chassé Barkhane et s'est détourné de la France, s'est tourné vers la Russie. Il a conclu des accords sécuritaires avec la Russie. Il collabore avec le contre-espionnage russe, le GRU, et les paramilitaires sont déployés au Mali. Il faut comparer avec ce qui s'est fait en Centrafrique. Le territoire de la Centrafrique a été reconquis à 95% par les forces du président Touadéra, qui n'occupait même pas tous les quartiers de sa capitale il y a encore 4 ans. Et ça a été fait en déployant des forces militarisées en casernées sur tout le territoire national. Le Mali a besoin de ses forces militaires, paramilitaires et policières militarisées de façon à pouvoir occuper tout le territoire national, en sachant qu'il est en train de récupérer les 2/5 du territoire national qui avait été abandonné par la France aux terroristes d'Acmi et des Touaregs. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Bernard Cornu. Alors, M. Cornu, que pensez-vous donc de ces mesures qui avaient trouvées par M. Luc Michel?
Analyse de la situation politique interne et aux troubles qui ont lieu au Mali, il faut réfléchir à l'origine de ces troubles qui remontent à très loin et à très large. Pourquoi? Parce que je connais un peu le Mali et les pays des environs. Il y a une très grande différence de prix des carburants entre l'Algérie ou la Libye, où ils sont très bas, pays pétroliers, et les pays du Sahel, où actuellement ils dépassent 1 euro, 1,20 euro. C'était aussi très bas aussi au Niger. Donc il y avait depuis très longtemps, depuis des décennies, des contrebandes. Et ceci développe des mafias, de la corruption aux frontières. Et une fois que la contrebande de carburant est établie, les réseaux mafieux utilisent ces connexions et ces modes de transport pour transporter des armes, de la drogue, des travailleurs immigrés, étrangers et... Il faut rajouter aussi quelque chose qui s'est passé dans les années 79, quand les pays arabes de la péninsule arabique sont très riches. Ils sont venus en avion, puis après utiliser des tout-terrains pour chasser la gazelle et aussi trouver des filles. C'était donc tout ceci a développé des réseaux très puissants face à des clients très très riches. Et ceci aussi a contribué à développer non seulement au Mali, mais au Niger, en Haute-Volta, et sur les pays de la côte du golfe d'Abidjan, du Togo, d'Ahomey, des mafias. Et puis donc le trafic d'armes. C'est pour ça, et ceci se rajoute évidemment, la revendication d'autonomie des populations Touareg du nord de ces pays subsahariens. Et cette rébellion existe depuis plus de 40 ans et il n'y a pas été trouvé de solution ni de la part des pays eux-mêmes, ni la part des coopérations avec les Français ou d'autres pays qui auraient pu essayer d'aider à des évolutions du système politique local, de la constitution, des lois adaptées aux situations régionales, aux situations de vie de ces Touaregs, qui étaient à l'époque encore très mobiles et qui avaient besoin néanmoins d'écoles, de soins. Et il fallait organiser tout ça. C'était possible de le faire, mais ça n'a pas été fait. D'où cette revendication, le mélange de cette revendication d'autonomie régionale et de ces trafics aux frontières à cause de différences de taxation sur les carburants principalement. Voilà. Et donc le problème est régional et il est dommage effectivement que ni l'ONU ni les organisations africaines n'aient attaqué ce problème de la taxation des carburants qui est la mère des contrebandes.
Monsieur Bernard Cornu, quel était le rôle de la France dans cette situation? Est-ce que le fait que la France ait été expulsée donc, du Mali, est-ce que ça n'a pas aidé les choses à la stabilité, justement, le vol du carburant, par exemple?
Si vous voulez, je n'ai pas été sur le terrain pour évaluer les méthodes des troupes françaises mobilisées sur place à l'appel du gouvernement d'alors, du temps de François Hollande. Mais c'est vrai que la presse a rapporté des exactions, des difficultés. Et de toute façon, une armée étrangère dans un pays, ça ne peut pas fonctionner, que ce soit volontaire ou que ce soit à la demande, disons, ou à ce soit une armée d'occupation. Il y a forcément des populations qui ne veulent pas de ça et qui réagissent parfois violemment contre ça. Donc, les évolutions politiques, les insatisfactions face à la gestion des contrebandes et du terrorisme, du trafic d'armes et d'autres trafics, ont fait que l'impatience du gouvernement a fait qu'elle a demandé le départ de ses troupes françaises de Barkhane. Donc, je peux seulement parler de la coopération civile que menait la France. J'ai fait quelques missions au Mali, notamment sur la gestion d'électricité, mais j'ai travaillé de très près, j'ai circulé à moto avec les releveurs, donc je connaissais bien le terrain. Et d'ailleurs, le directeur malien avec qui j'ai affaire dit « Monsieur Cornu, vous connaissez maintenant mieux le Mali et son problème d'électricité que la compagnie française, la grande compagnie française qui est là depuis plusieurs décennies et qui vit dans un milieu, dans une villa riche avec une piscine et qui connaît très mal la situation du Mali. » Je crois, j'ai déjà cité à cette antenne le problème que j'avais identifié aussi des frigos. Le Mali importait des frigos d'occasion, rejetés par l'Occident et même par la Russie, j'en ai vu, et ces frigos consommaient énormément, 3 ou 4 fois plus que devrait consommer un frigo moderne, bien isolé, adapté à ce climat tropical et à cette chaleur du Mali. Donc vous voyez, ce genre d'erreur, de problèmes très pratiques qui affectent la situation économique et sociale des gens, fait qu'on peut comprendre un peu le ras-le-bol des populations du Mali et d'autres pays face aux coopérations occidentales qui souvent sont mal ciblées, pas assez pratiques et souvent aussi trop chères.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir et connaître votre opinion?
Oui, parce qu'il faut compléter ce que dit le professeur Cornu. Il y a depuis la fin des années 1960 des problèmes entre les Touaregs et l'État central. Mais tout a été aggravé volontairement par les Américains et les Français à la suite de la destruction de la Jamaïque libyenne en 2011. À cette époque-là, les Touaregs étaient employés par la Légion islamique de Kadhafi. Ils se sont retrouvés après la mort du guide libyen orphelin. Et à ce moment-là, les généraux américains de l'Africom et les généraux français leur ont permis de traverser 3 pays avec armes et bagages. Parmi les armées, il y avait des véhicules blindés, il y avait des missiles anti-chariots, anti-hélicoptères. Et ils ont fait leur jonction, ce que prévoyaient les services secrets, avec les gens d'ACMI. C'est de là qu'est née la rébellion, justement malienne. Il y a eu un scénario à la Libyenne qui a été développé au Mali et en Centrafrique. Au Mali, donc, c'est l'arrivée des Touaregs et leur jonction avec ACMI. Et en Centrafrique, c'est une coalition islamiste qu'on a amenée au pouvoir, la SELECA. La Seleka en Songo, cela veut dire la base. La base en arabe, ça se dit Al-Qaïda. Si on ne sait pas ça, on ne comprend pas ce qu'est la Centrafrique. Le ministre Lavrov, il a résumé tout ça en 2014. Il a dit dans une phrase, on ne peut pas prétendre combattre les islamistes à Bamako et les avoir installés au pouvoir à Tripoli. Voilà ce dont les colonels Kamassi Goïta ont décidé de mettre fin et avec l'aide de la Russie, de reprendre le contrôle du territoire national.
Absolument. Merci, M. Luc Michel. Mais je m'adresse à M. Bernard Cornu depuis Paris. M. Cornu, comment expliquer le mécontentement de certains pays occidentaux, enfin l'axe US-LOTAN, face à des mesures prises par le gouvernement malien, dont la synchronisation de la police et de l'armée? Comment ils font pour contourner les sanctions exercées à leur encontre?
Disons, d'une part, je comprends la nécessité très pratique de cette mesure du Mali, de militariser la police, pour que, au-delà d'une occupation, de combat de l'armée avec des groupes armés rebelles de différentes natures, mafieux ou Touareg, il faut arriver à gérer le pays, à contrôler la situation d'un point de vue civil. Et donc, tant qu'il y a des rébellions armées, des armes, beaucoup dans cette région-là, en partie en provenance du pays, il faut que la police ait les moyens de gérer les situations civiles.
Monsieur Cornu.
Alors, s'il y a des reproches de la France et des États-Unis de cet axe US-OTAN, c'est en fait à cause de la situation générale de la région et de la contagion de cette rébellion contre les anciennes puissances coloniales, la France, bien sûr, se propage à d'autres pays parce que le Mali a finalement eu le courage, l'audace ou le culot de demander à la France de retirer son contingent militaire.
Monsieur Cornu, si vous permettez, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qu'ils gagnent, les pays occidentaux, enfin surtout la France, dans l'instabilité et l'insécurité dans ce pays?
Je n'ai pas entendu la question.
Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'ils gagnent, l'axe US-LOTAN, si l'insécurité et l'instabilité régnaient au Mali? Pourquoi ils sont contre la stabilité dans ce pays?
Disons, je ne dirais pas qu'ils gagnent, mais comme l'a bien dit Monsieur Luc Michel, il faut remonter à l'attaque illégale sur une résolution 1773 qui a été abusée, qui a été complètement dépassée. Il y a eu la destruction de la Libye pour des raisons, d'une part, très géopolitiques, parce que le colonel Kadhafi, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 69, peu de temps après, en 70, il a analysé le problème de la gestion du pétrole et il a dit lui-même, à l'époque, en 1971, qu'il faudrait coter le pétrole en un panier de monnaie et non plus avec le seul dollar. Et cette idée s'est propagée dans d'autres pays à l'époque, en Iran, même en Arabie Saoudite, même, et à d'autres pays. Et l'Irak l'a fait, lui, en cotant son pétrole en euros. Que cette volonté conjuguer des grandes puissances, France, Angleterre, États-Unis, de détruire le régime libyen en faisant une attaque qui a été illégale, en fait, a propagé effectivement tout un système d'armes, des stocks d'armes qui ont été propagés. Donc, en fait, la responsabilité d'origine est à ces pays-là, du temps de M. Cameron et Sarkozy, qui ont voulu détruire le régime libyen. Sarkozy aussi pour des raisons très personnelles et qui sont encore à juger, mais on saura bientôt la vérité complète assez rapidement. C'est parce que ces puissances-là refusent d'assumer leur responsabilité très grave datant de 2011 qu'ils ne souhaitent pas que les régimes africains qui ont souffert de ces conséquences soit stable et puisse plaider en justice, puisse parler dans les médias, expliquer la situation et demander à ces pays-là des dédommagements pour recouvrer leur stabilité et mettre fin à ces trafics, à ces usages des armes.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, la même question à vous. Qu'est-ce qui gagne l'axe US-LOTAN dans l'instabilité?
Écoutez, les Occidentaux ne sont pas victimes de la situation. Ils en sont les bénéficiaires et ils l'ont organisé. Au Mali, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a surtout de l'uranium de plus grande qualité que celui du Niger. Voilà ce qui explique la présence des Américains et des Français. Les djihadistes, ce ne sont pas des ennemis de l'Occident, ce sont des alliés tactiques. Le djihadisme sert de prétexte à l'ingérence militaire occidentale et au pillage du pays. Voilà ce qui est en train de se passer. Au Mali, en 8 ans, les Français ont eu 63 morts. En 1960, au Vietnam, les Américains, pendant la même période, ont eu 100 000 morts. C'était une vraie guerre. Mais la soi-disant guerre au terrorisme est une comédie, un théâtre qu'on dresse devant les populations africaines pour venir les piller, les spolier. Voilà ce qui explique leur colère, parce qu'aujourd'hui, le roi est nu. Les Français, les Américains, ils apparaissent comme s'ils sont des occupants étrangers.
Oui, Monsieur Luc Michel, un mot tout de même sur la Russie. Depuis que la Russie est influente dans ce pays, ils ont tué plus de terroristes qu'ils ont tué en 8 ans la France.
Écoutez, la Russie est arrivée via le Soudan à l'issue de la guerre de Syrie en 2015. Il s'est ensuite tourné vers la Libye. Il a aidé diplomatiquement le Burundi. Et puis il s'est dirigé avec des fermes paramilitaires vers la Centrafrique fin 2017 et aujourd'hui vers le Mali et le Burkina Faso. Ce que la Russie recherche, elle est également présente dans 14 pays africains où elle dispute la situation aux Occidentaux. Dans ces pays, il y a le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Mozambique ou l'Éthiopie, par exemple. Ce que la Russie recherche, ce n'est pas des richesses, puisque les ressources matérielles, l'uranium, le gaz, le pétrole, l'État continent qu'est la Russie en est riche comme l'Afrique. Ce que la Russie recherche lorsqu'elle est revenue à partir de 2015 sur les champs de bataille de la guerre froide, comme disent les Américains, ce sont des alliés géopolitiques dans l'optique de la future Troisième Guerre mondiale. Bien entendu, la condition évidemment pour que l'Europe ne soit plus alliée de l'Occident, c'est de rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale des États africains. C'est ce que fait la Russie aujourd'hui et c'est ce qui explique la colère surtout des Américains, mais également la colère des Français. La colère des Français, c'est une conséquence, une séquelle de la déstabilisation américaine.
Monsieur Cornu, est-ce qu'on peut connaître votre opinion là-dessous, je vous prie?
Bien sûr, M. Luc Michel a cité le respect de l'intégrité des frontières, mais il faut quand même dire que toutes ces frontières ont été établies par les puissances coloniales, dépendances, et on peut comprendre qu'il y ait des revendications d'autonomie, de régionalisation dans certains pays pour des raisons ethniques, linguistiques, religieuses. Donc il faudrait que l'ONU s'attache un peu à ça pour trouver les solutions constitutionnelles ici et là, pour calmer ses revendications, pour satisfaire ses revendications régionales qu'il y a un peu partout dans ces régions. Et encore une fois, pour faire cesser les tarifs, il importe qu'il y ait une convergence des taxes sur les carburants, que la contrebande des carburants est très facile et elle enrichit beaucoup de mafias, elle génère la corruption. Tant qu'elle est là, ça génère des contre-choses. Donc pour calmer la situation, je pense que cette coopération internationale sur la fiscalité des carburants essentielle.
Oui, M. Luc Michel, pour terminer, les pays occidentaux, enfin ceux qui sont influents au Mali, est-ce qu'ils vont rester les bras croisés ou bien ils vont prendre des mesures pour à nouveau donc, se renifler dans les affaires intérieures du Mali et peut-être bien être bénéficiaires?
L'Occident est pour le démembrement des États et la création de petits États non viables. Il y a eu 5 périodes, ce qu'on appelait le Grand Moyen-Orient de Bush 2, qui allait en fait du Maroc à l'Asie centrale. Ensuite, il y a eu le printemps arabe d'Obama, le printemps africain en 2014, la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton en 2018. Et aujourd'hui, il y a un nouveau printemps africain qui est organisé par Biden, qui est en cours d'organisation. Le but de cela, c'est d'arriver à 35 nouveaux États en Afrique et au Proche-Orient. La Russie, elle développe une théorie géopolitique différente. C'est le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États, et c'est la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Voilà donc pourquoi le choc est évident. entre l'Occident et la Russie. Maintenant, l'Occident ne se laisse pas faire. Les Américains sont en pleine contre-offensive et les Français ont démarré celle-ci. Parmi ceux-là, il y a un train de nouvelles lois sanctions contre les États africains qui veulent collaborer économiquement avec la Russie. C'est une loi qui est en train d'être votée au Sénat américain qui va viser 37 pays africains. Il y a la création dans la guerre de la communication d'un centre spécialisé qu'on appelle le Global Engagement Center, qui est fait par le State Department et le Pentagone. Enfin, évidemment, il y a le déploiement des missions militaires de l'Africom. La France a continué. Elle a décidé de consacrer, de confier la guerre de communication à l'armée française et plus aux médias d'État. Et elle est en train de créer un mouvement d'organisation de la société civile pour fracturer les États africains, notamment un forum des ONG qui est imité des méthodes américaines.
Tout à fait.
Il ne faut donc pas croire que les Occidentaux vont se laisser dépouiller par la Russie ou rétablir l'autonomie des Africains. Ils vont se battre bec et ongles pour que ça n'arrive pas. On en a l'exemple déjà actuellement d'ailleurs dans la Corne de l'Afrique avec le Soudan et l'Éthiopie, qui sont les États qui avaient déjà évidemment tenté de recueillir leur souveraineté dès les années 2017-2018. Des présidents renversés comme Omar el-Béchir par Donald Trump ou comme Abiy Ahmed, qui est sous l'objet d'une guerre civile, ce sont les premiers qui avaient tenté le mouvement. Aujourd'hui, il y a Touadéra, Assimi Goïta, le capitaine Traoré au Burkina Faso.
Absolument.
Les étapes suivantes, évidemment, ce seront probablement le Cameroun et le Tchad. Il faut retenir qu'il y a un État pilote dans la collaboration avec le Bloc de l'Est, la Russie, mais aussi l'Iran, c'est la Guinée équatoriale. Dès 2015, le président Biagnéma Bassongo a fait des accords militaires avec la marine russe. Il a rejoint l'OPEP. Il a participé à l'organisation des États africains producteurs de gaz. Et enfin, il a fait des accords avec la Chine. En ce moment, il est l'objet, lui et son fils, d'une vaste entreprise de déstabilisation.
Absolument.
Qui est menée principalement par la France.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à monsieur Bernard Cornu, qui nous a accompagnés depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Bonjour, chers auditeurs. Dans les émissions précédentes, nous avons découvert les activités de plusieurs entreprises basées sur le savoir en Iran. Dans ce programme, nous parlerons de la société Kitotech. La compagnie Kitotech est issue d'un institut de recherche qui a fait des études sur les biopolymères marins et leurs applications médicales. L'unité de production de la société a été créée en 2005. En tant que société de production basée sur les connaissances, elle a reçu en 2017 son permis d'activité dans ce domaine. les activités de la société Kitotech ont franchi les frontières de la technologie en produisant des produits cicatrisants avancés, des pansements hémorragiques et des solutions désinfectantes à base de nano-argent. Les produits médicaux de cette société ont été agréés par le ministère de la Santé, ceux-ci ayant reçu le certificat ISO 13485, 5 brevets européens, un brevet américain et 22 brevets nationaux. L'objectif de la société est de fournir des alternatives sûres, de haute qualité et non invasives aux consommateurs et aux systèmes de santé. Kitotech a une variété de produits. Garros hémorragiques, nouveaux cicatrisants, pansements secondaires, désinfectants à base de nano-argent, produits de santé, trousses de secours, produits de diagnostic, injecteurs sans aiguille font partie de ces produits. Dans la suite du programme, nous ferons connaissance avec ces produits. Comme nous l'avons dit, les produits d'hygiène sont l'un des types de produits fabriqués par cette société qui comprennent les produits d'hygiène personnelle, la mousse pour le corps, la mousse pour les mains CellSept, la mousse de désinfection spéciale et l'éponge nettoyante pour le corps. Les produits de santé Kitotech sont conçus de manière à adoucir la peau sans provoquer de sensibilité et avec un arôme agréable. Sa mousse corporelle convient aux bains des personnes âgées et des patients souffrant de lésions de la moelle épinière et l'éponge de nettoyage du corps est prête avec des détergents. La plupart de ces produits n'ont pas besoin d'être rincés après utilisation et il est facile de sécher le corps avec une serviette. Kitogon est également un nouveau produit de la société Kitotech qui effectue l'injection sans utiliser d'aiguille. Ce nouveau dispositif peut être réglé intelligemment en appuyant sur un bouton pour l'injection aux enfants et aux adultes. Avec l'aide de ce produit, la peur de l'injection est éliminée. En même temps, il est facile à utiliser et il n'y a pas de contamination. En raison de sa pénétration à la profondeur du corps, Kitogon rend très ciblé la libération de médicaments dans le corps. Des saignements abondants et incontrôlables mettent la vie des gens en danger. Les pansements anti-hémorragies de Kitotech sont fabriqués à partir de matériaux naturels de cellulose régénéroxydée et en arrêtant rapidement tous les types de saignements artériels, veineux et capillaires, dont les plus brefs, réduisant les coûts hospitaliers, réduisant le temps d'hospitalisation et changeant le type de traitement aux patients ambulatoires, la réduction de besoin de transfusion sanguine et la réduction de la transmission des infections ont joué un rôle très important dans l'amélioration des services médicaux et le sauvetage des vies des patients. Il convient de mentionner que ces produits peuvent arrêter les saignements indépendamment de la voie de la coagulation sanguine dans le corps. Ainsi, ces vaisseaux sanguins peuvent être utilisés chez les patients présentant des problèmes de saignement héréditaire, tels que l'hémophilie, la maladie Wilbrand et une maladie de la coagulation du sang. Dans cette partie du programme, nous présenterons certains produits anti-hémorragie fabriqués dans la société Kitotech. Kitohem est l'un de ces produits. Une poudre anti-hémorragie avec de larges capacités antibactériennes. Cette poudre convient à tous les types de saignements artériels, veineux et capillaires, et selon le type et l'étendue du saignement, elle arrête le saignement entre 40 et 90 secondes. De plus, cette poudre empêche l'adhérence après l'opération. Bonem est un autre produit anti-hémorragie de cette société. Bonem est une formulation hémostatique à activité antimicrobienne qui arrête le saignement osseux immédiatement après utilisation. Kitosponge est également une mousse saignante à base de gélatine. Cette mousse convient à tous les types de saignements artériels, veineux et capillaires, et arrête le saignement en moins de 2 minutes.
bandage Advanced Stop Bleeding Kit est une gamme complète de pansements de premiers soins d'haute qualité destinés à fournir des soins médicaux professionnels en première ligne des fronts de guerre. Ce produit se compose d'un tampon de saignement, d'un tampon superabsorbant, d'une pince spéciale pour appliquer une pression directe sur un organe du corps qui saigne, d'un crochet pour maintenir le pansement en place et d'un bandage, la pince spéciale pour appliquer une pression directe équivalent à 207 kPa sur le bandage de combat utilisé pour arrêter l'hémorragie d'une plaie. Les produits désinfectants sont également produits dans la société Kitotech. Les puissants désinfectants Kitotech de la marque Silocept sont conçus et produits sur la base de la technologie des nanocolloïdes d'argent. Les pansements secondaires Kitotech sont un autre produit de cette société qui sont utilisés pour stabiliser les pansements primaires et les maintenir en place et fournir une humidité optimale de la plaie. Ces pansements sont divisés en deux groupes, les pansements absorbants et les adhésifs protecteurs. La cicatrisation est un processus complexe de régénération des différents tissus impliqués dans la plaie qui nécessite l'action de différentes cellules et enzymes. Les produits de cicatrisation Kitotech sont des pansements bioactifs avancés qui couvrent les étapes de la cicatrisation et de la gestion de cicatrices du début à la fin. Les nouveaux pansements Kitotech sont conçus et fabriqués sur la base des dernières avancées médicales, des principes scientifiques et pratiques de la cicatrisation humide des plaies qui ont eu d'énormes résultats dans la cicatrisation de divers types de plaies aiguës et chroniques. Ces pansements sont préparés à partir de matières naturelles et leur efficacité par rapport aux pansements traditionnels a été largement évaluée et prouvée dans des études cliniques. Par ailleurs, les résultats de ces études ont été publiés dans des revues internationales. Ces pansements sont disponibles en différents types et conviennent aux plaies aiguës et chroniques de différentes tailles et profondeurs. Les produits cicatrisants pour plaies fabriqués à Kitotech comprennent les produits suivants. KitoScrub, qui est une brosse en polymère jetable pour éliminer les tissus nécrotiques, les sécrétions de plaies et les croûtes autour de la plaie. KitoHeal Gel, qui est un pansement bioactif pour les plaies superficielles. KitoDebris Pad, qui est utilisé pour éliminer les tissus nécrotiques de la surface des plaies. KitoCavity, qui est considéré comme un pansement approprié pour les plaies profondes et les cavités avec beaucoup de sécrétions. Il convient de mentionner que la société Kitotech a également produit une trousse de premiers soins qui comprend le matériel nécessaire en cas d'accident, les outils utilisés lors des premiers soins avant l'arrivée des secouristes ou le transfert du blessé à l'hôpital afin de sauver sa vie et d'éviter d'autres dommages. En outre, cette société a développé un programme pratique et puissant appelé ILAP pour le soin des plaies. Application avec une plateforme appropriée à tous les types de téléphones Android et iOS qui fournit en permanence des informations sur la zone anatomique de la plaie ainsi que la progression de la cicatrisation des plaies.
Thank you.